Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Et oui, ce matin, c'est notre matinale infernale. Si vous avez un trou de mémoire, parce que je sais qu'il est tôt, je vous remets les idées en place. La matinale infernale, c'est l'émission de graphite qui dynamite, en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Le principe, former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio et enregistrer leur production sous forme d'émissions. Moi, c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques. Ce matin avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille, tous les mercredis soirs. Notre plus jeune chroniqueur du jour a seulement 10 ans. Il a été notre témoin silencieux durant toute la saison précédente et cette année, il s'est lancé avec nous. Bravo Martin, notre étoile filante, et bienvenue dans l'équipe des chroniqueurs de la matinale infernale.
Merci.
Tous les chroniqueurs de ce matin ont choisi des thématiques qui les animent. Vous en reconnaîtrez peut-être certains, ou devrais-je dire certaines. Je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Marion.
Bonjour.
Patty.
Bonjour.
Fatih.
Hello.
Bertil.
Bonjour.
Et Martin.
Bonjour.
Alors, n'en déplaise à Fatih la féministe, ce matin, ce ne sera pas l'honneur aux dames, mais honneur aux plus jeunes.
Normal, j'accepte.
Bon, ça va, on est sauvés. C'est donc Martin, notre étoile filante, qui va ouvrir la révolution de nos chroniques matinales.
Salut tout le monde, comment allez-vous? Je vais vous parler du système solaire. Mais dites-moi, pour vous, qu'est-ce que le système solaire?
Ouais, les planètes.
Ouais, j'aurais dit ça aussi, moi.
Oui?
Oui, les planètes.
Ah, on est tous d'accord.
Les planètes et puis tout ce qu'il y a autour, les météorites, les satellites et tout ça.
Oh, toujours plus.
Oui, mais pas que. Il y a d'autres choses que je vous expliquerai plus tard. Le système solaire est très complexe, mais je vais essayer d'en parler du mieux que je peux. Nous avons donc le soleil, qui est quoi, rappelez-moi?
Une étoile. Ah, une boule de feu.
Oui, mais
étincelante.
Oui, mais le nom scientifique est un astre, aussi appelé étoile, du coup. 8 planètes, plus une, Pluton, qui est une planète naine. Alors, qui peut me dire l'ordre des planètes en partant du Soleil, évidemment?
Oula,
non, moi...
Pluton.
En partant du Soleil. Vas-y, dis-nous
Pluton,
tout.
Pluton au début, alors qu'elle est censée être à la fin.
Allez, vas-y.
Ah oui, bah c'est ça, c'est ce que je disais, c'est à l'envers.
Et en plus, elle est plus considérée dans le système solaire, donc c'est plus vraiment une planète.
En plus, allez.
Du talent.
Du coup, un petit cours de français. Mais pourquoi, me diriez-vous? Car j'ai une petite phrase mémotechnique. Me voici, tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Les initiales des mots sont celles des planètes. Mais attention, me est pour Mercure, pas pour Mars. Ça donne donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour rappeler. Me, Mercure, voici, Vénus, tout, la Terre, mouillé, Mars, j'ai, Jupiter, suivi, Saturne, un, Uranus, nuage, Neptune. Une petite question très rapide. Les planètes sont divisées en 2 catégories. Mais lesquelles?
Chaudes ou froides?
Les vertes et les rouges.
Les grosses et les petites?
Les loin et les pas loin?
Les plates et les rondes?
Les loin et les pas loin, ça m'a bien fait rire.
À ton service.
Et non, il y a en fait les rocheuses et les gazeuses. Les 4 premières sont rocheuses et les dernières gazeuses, même Pluton. Je vous ai dit que j'expliquerai ce qu'il y a dans le système solaire. Il y a donc des astéroïdes, des comètes, des planètes avec un ou plusieurs satellites. Je crois qu'il y a une planète avec plus de 40 satellites.
Oh.
Wow. Donc satellite, c'est à peu près la Lune.
Ouais, donc ça en fait beaucoup, hein.
Dans un ciel, waouh.
Waouh, 40 lunes dans un ciel avec le lumière.
Et tout ça sans accident.
Et peut-être que c'est même des plus grosses que la Lune. Ouh. Plus gros satellites que la Lune. Ouais. C'est des satellites naturels. Et un seul as, sans compter les étoiles, le Soleil. Et puis, juste avant l'info astronomique, les planètes tournent autour du Soleil, ça tout le monde le sait. On appelle cela la révolution, et elles tournent aussi sur elles-mêmes, on appelle cela la rotation. C'est l'heure de l'info astronomique. En octobre 2024, il y aura une comète visible à l'œil nu qui s'appelle C/2023A3. À la prochaine chronique.
Merci Martin.
Merci.
Eh bien, c'est un éveil tourné vers l'univers que nous avons eu ce matin. Après l'infiniment grand, je vous propose de tourner notre attention vers l'infiniment petit avec Bertil.
Bonjour auditrices, auditeurs. Promenons-nous ensemble dans le monde de l'infiniment petit pour y goûter sa magie. Qui n'a pas encore entendu ou lu ce terme quantique? Mais de quoi s'agit-il? Quantique, c'est le mot magique pour entrer dans un monde connu depuis plus de 100 ans déjà. Le monde fantasmagorique de l'infiniment petit. Le monde des particules. Grâce à ce monument de la science, nous comprenons enfin ce qui constitue la matière et la lumière à petite échelle. Nous lui devons toute l'électronique contemporaine de plus de 50 ans, le laser, la LED et l'organique et l'ordinateur quantique, avec ses premiers prototypes qui séduisent notamment par leur puissance de calcul colossale. Quantique vient du mot quanta, quand Einstein fait l'hypothèse que la lumière elle-même est constituée de grains, de quanta. C'est en 1926 que ces grains furent baptisés photons. La mécanique quantique concerne les photons, les électrons au sein des atomes, mais aussi toute particule de l'infiniment petit. Mais que dit-elle la mécanique quantique? Elle dit qu'une particule a la particularité d'être à la fois, j'ai bien dit à la fois, une particule et une onde. Une particule se comporte comme une onde tant qu'elle n'est pas mesurée par l'instrument d'un observateur. Cette dualité onde-particule, d'être les deux choses à la fois, entraîne des conséquences très étonnantes. Par exemple, il est impossible de connaître simultanément et de façon précise la position et la vitesse d'une particule, je devrais dire d'une onde-particule. Nous pouvons mesurer soit la position, soit la vitesse, mais pas les deux. D'où l'intervention de probabilité dans la physique quantique. Cet aspect probabiliste de l'infiniment petit rend encore perplexes les physiciens. En effet, le déterminisme et la certitude caractérisent la physique classique. Ce qui est révolutionnaire dans la physique quantique est qu'elle est caractérisée par l'incertitude et le hasard. Le hasard, oui, le hasard, qui intervient dans la physique alors même que les physiciens ont passé leur temps à déterminer des règles et des lois qui régissent la nature. Étrange, non? Parlons de la lumière. La lumière, nous venons de le voir, ce sont des photons, particules sans masse, qui se comportent comme une onde. L'analogie la plus simple pour le concept d'onde est celui des vagues qui se propagent à la surface de l'eau. Petite vague, petite longueur d'onde. Grande vague, grande longueur d'onde. Il existe toute une gamme de lumières que vous connaissez. Je vais les citer par ordre de longueur d'onde croissante ou d'énergie décroissante. En effet, quand la longueur d'onde augmente, l'énergie de l'onde de lumière diminue. D'abord la lumière gamma, puis la lumière X. Vous avez déjà passé une radio, et bien voilà. C'est de la lumière X suffisamment énergétique pour traverser facilement la paroi de votre corps. Vous connaissez la lumière ultraviolette moins énergétique, les fameux rayons ultraviolets du soleil. Toujours par ordre d'énergie décroissante, la lumière visible qui nous est familière. Elle se décompose en un merveilleux festival de rouge, orangé, jaune, vert, bleu indigo et violet. Il suffit de regarder l'arc-en-ciel qui est la décomposition de la lumière solaire dans les gouttelettes de pluie selon les différentes longueurs d'onde des couleurs. La lumière infrarouge qui est celle des caméras ou appareils photo utilisés la nuit. La lumière micro-ondes et celle de vos fours à micro-ondes. Enfin, la lumière radio, la moins énergétique qui transporte les sons et les images. Leurs grandes longueurs d'onde sont appelées ondes hertziennes. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Retenons bien cette vitesse, car Einstein nous a appris que rien ne se déplaçait plus vite que la lumière dans le cosmos et dans notre monde. La prochaine fois, je vous parlerai de l'intrication quantique qui passionne les physiciens du monde entier et qui va vous passionner aussi. À bientôt.
Merci Mertil.
Merci.
Merci d'avoir éclairé nos lanternes.
Que d'onde.
Que diriez-vous de poursuivre avec un thème cette fois infiniment mystérieux? Je fais des blagues et je rigole toute seule, c'est pas grave.
Hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer la journée pour vous parler du lien particulier qui s'est tissé entre la femme et la religion au fil des siècles. Vous souvenez-vous comme moi d'un dessin paru dans un fameux journal satirique? On y voyait un rabbin, un imam et un évêque assis côte à côte sur un canapé, posant négligemment leurs pieds sur le dos d'une femme agenouillée en guise de table basse. Et dans la bulle de l'évêque, on y lisait, ouvrez les guillemets, finalement, sur l'essentiel, on est plutôt d'accord. Ah, ainsi, depuis que les monothéismes ont expulsé les polythéismes et leurs déesses, les religions ne sont pas tendres avec les femmes. Petit rappel quand même, sous le terme de monothéisme sont regroupées les religions ayant un seul dieu et sous le terme de polythéisme sont regroupées les religions ayant plusieurs dieux et déesses. Donc la Bible est le premier livre sacré à ne pas avoir de dieu nommé au féminin, bien qu'il y ait d'innombrables saintes, dont la Marie, que je vénère, soit dit en passant, vierge ou pas d'ailleurs. Dans la Genèse, on y lit « Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui ressemble. Femme, je te le dis donc, tu ne serais femme que par l'homme et pour l'homme. Femme, je te le dis, tu serais un être inférieur et tu ne serais là que pour tenir compagnie et assister l'homme, avec un petit H bien entendu. » Bref, désormais, un seul Dieu règne et il est masculin. Et en plus, il a une aide féminine, bien entendu. Mais pourquoi pas l'inverse, me direz-vous? M'en vais vous le dire, moi. Mais parce que l'homme est un assisté, voilà la vérité.
J'aime beaucoup cette explication.
Très rationnel.
Il lui fallait donc, évidemment, un être supérieur. It's a joke, c'est une blague bien entendu. Hommes et femmes, je vous le dis, recherchons l'égalité, pour ne pas dire l'équité, à tout prix. Sinon, nous risquerions de tomber dans le matriarcat et le crépage de chignon. Oups, ça c'est un vrai préjugé. Mais non, ça serait l'horreur. Mais bon, ceci est un autre débat. Allez, en attendant, je vous balance quelques pépites patriarcales bien misogynes. Saint Augustin a écrit... « Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. » C'est cela, oui. Les juifs orthodoxes, eux, commenceraient leur journée par la phrase « Seigneur, loué sois-tu de ne pas m'avoir fait femme. » Ben, je vous le dis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent quand même. Ainsi, à travers le prisme religieux, la femme ne pourrait prétendre qu'à trois destins, celui d'épouse, de mère ou de vierge. C'est cela, oui.
Bien sûr, bien sûr.
Malheureusement, dans cette logique, on ne compte plus les sorcières brûlées vives pendant l'Inquisition ou encore les lapidations pour infidélité.
Ah non, il n'y a pas de statistiques là-dessus.
Encore d'actualité, malheureusement. En parlant de sorcières, j'en profite pour vous informer qu'elles sont de retour. Et oui, mais n'aie pas peur, homme, avec un grand H. Elles ne le sont que sur les fils Instagram et donc sur les étals de nos librairies. Quoique, nous sommes peut-être toutes des sorcières qui s'ignorent, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Bah écoute, moi je dois en être une parce que j'ai reçu deux fois le même livre à Noël sur les sorcières. Donc je me suis dit que deux personnes s'étaient dit la même chose.
Voilà, je savais, t'étais une sorcière. Et tu l'es toujours.
Bon, j'en profite, puisque je suis à l'antenne, pour remercier Peg, ma poteau, de m'avoir offert pour mon anniversaire le livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet. Et tout un programme. T'as eu le même, Aurore, ou quoi ?
Non, c'était pas celui-là.
En fait, si je résume, pour les religions monothéistes, l'objectif est de maîtriser l'homme et ses instincts. Et comme la femme est perçue uniquement comme un objet de tentation, la religion s'acharne à la mettre sous sa coupe pour contrer ses effets délétères sur les hommes. Un peu fumeux quand même, hein, non ? Un peu beaucoup, non ?
Carrément.
Ouais, carrément. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous pensez certainement que c'est mort. Concilier les femmes qui refusent toute idée de patriarcat, celles qu'on dénomme donc les féministes, et les croyants est quasi mission impossible. Vous avez raison. Concilier les féministes et les croyants est quasi impossible. Quasi, car voici quelques exemples prouvant qu'il y a encore de l'espoir. Premier exemple. Sherine Kankan, une femme danoise, fille d'une Finlandaise et d'un Syrien, et une des quatre femmes imams de son pays. Elle participe au forum des musulmans critiques, qui a un collectif en faveur de la relecture moderne du Coran. Deuxième exemple, Delphine Horvilleur, une des très rares rabbins, pour ne pas dire rabbine, femmes en France, qui appartient au mouvement juif libéral de France et qui prône l'idée que les femmes croyantes doivent prendre la place qui ne leur est pas donnée dans la religion pour combattre la misogynie et la violence faite aux femmes. Troisième exemple, l'association Femmes, Hommes, Égalité, Droits et Liberté dans les Églises et la Société. FHEDLES. Cette association anime un centre de recherche dénommé Genre en christianisme pour une religion plus ouverte à la différence et qui accepterait l'ordination des femmes. Bon, en même temps, les prêtres y portent déjà la culotte, pardon, la robe, comme dirait mon Yann, mon BFF. Bon allez, un petit dernier exemple comme quoi c'est quasi mais pas impossible de concilier religion et féminisme. Bah moi, bah peut-être toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent.
Oui alors Grégoire, ce sera la fin de l'émission.
Bien, ces exemples juste pour nous permettre d'espérer qu'un jour les religions seront en adéquation avec l'humanité dans le respect de sa diversité, avec une réelle tolérance aux différences. En attendant, je vous invite à apprécier les belles caricatures de l'humoriste De Benoît dans son sketch « Le document volé au Vatican ». Je ne l'aurais jamais déniché toute seule celui-là. Merci Mathieu, mon poteau.
Et voilà de belles dédicaces et de gros clins d'œil, pas trop discret dans cette chronique. Je voudrais prévenir nos auditeurs que s'ils entendent une sorte de truc qui tourne derrière, c'est parce que notre émission a fait un carton, il y a plein de likes Facebook sur la page et du coup, le studio se met en branle pour notre émission. Eh bien, je propose aux auditeurs qui devinent la prochaine thématique avec une courte pause musicale. Que vous avez choisi, hein, qu'on a choisi ensemble. Il s'agit de Sixième Sens de Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment. Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital. Quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Et nous voici de retour dans la matinale
infernale.
Alors, chers auditeurs, de quoi allons-nous parler? Est-ce que vous avez trouvé le lien qu'il y avait entre la chronique qui arrive et la chanson de Grand Corps Malade? Ah ah ah. Eh bien, c'est Marion, les handicaps en question, qui va nous rafraîchir la mémoire.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Handicapé, mais debout. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs et chers co-animateurs.
Bonjour.
Une petite question pour commencer cette chronique. Quelle image vous vient spontanément en tête si je vous dis le mot handicap?
Fauteuil roulant.
Oui, voilà. Carrément.
Bah oui,
ouais.
C'est les images qu'on a partout pour représenter le handicapé, c'est le fauteuil. Mmh. Eh bien, fausse idée. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles et en France, si 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap, une question au Sénat posée en juillet 2022 indiquerait le chiffre de 13 millions, soit aux alentours de 20% de la population française.
Ouais, c'est beaucoup. Hein.
C'est, voilà. On est 5, 6, c'est...
C'est l'un de nous.
Au moins l'un de nous.
Au moins l'un de nous.
Genre moi, par exemple.
ou moi
ou toi.
Bon, c'est pas un concours, hein, les nanas là.
Quelle est donc la définition du handicap? Selon la loi du 11 février 2005, que je simplifie ici.
Merci.
Oui.
Bien aimable.
Est considéré comme handicap toute atteinte subie par une personne au niveau physique ou mental de façon passagère ou définitive, de sorte que son autonomie, son aptitude à acquérir des apprentissages ou à occuper un emploi se trouve compromis de façon ponctuelle ou durable. Voyons maintenant plus en détail les différentes classifications de handicap. Et pour cela, nous allons faire un petit cours d'anatomie. Vous verrez, j'aime bien ces petits cours d'anatomie de temps en temps dans mes chroniques. Notre corps est donc constitué d'eau, de muscles et de nerfs. L'ensemble des atteintes de ces parties vont être classées dans le handicap physique ou le handicap moteur. Nous retrouvons également, pour ce qui va altérer la vision, le handicap visuel et tout ce qui va porter atteinte à l'audition, le handicap auditif. En ce qui concerne les maladies touchant les organes internes, comme le diabète ou le cancer, elles vont être définies comme les maladies invalidantes. Il nous reste trois grandes classes de handicap qui vont toucher un seul et même organe. À votre avis, lequel?
La main.
Le cerveau.
Le cerveau, c'est exact.
Yes.
Dans les atteintes du cerveau, nous allons retrouver... Dans les atteintes du cerveau, donc, nous allons retrouver le handicap mental, le plus connu étant la trisomie 21, le handicap psychiques, on retrouve la schizophrénie par exemple, mais également les TOC ou la dépression. Et enfin, le handicap cognitif, qui va regrouper les atteintes à une ou plusieurs parties du cerveau, comme les troubles DIS, dyslexie, dyscalculie, et même si à ce jour il est considéré à part, l'autisme, qui est effectivement a été déterminé comme une maladie neurologique. Donc, si nous reprenons les différentes classifications aujourd'hui, car rien n'empêche que de nouvelles catégories voient le jour en fonction de nouvelles découvertes scientifiques, nous avons le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, les maladies invalidantes, le handicap mental, le handicap psychique et le handicap cognitif. Pour en connaître un peu plus sur chacun de ces handicaps, je vous invite à réécouter les chroniques de la matinale infernale de la saison dernière ou à me suivre dans mes prochaines chroniques Marion, les handicaps en question. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter différents sites comme handicap.gouv.fr, agfip.fr, mdph.oise.fr ou encore capemploi-du-6-60.com.
Merci Marion.
Merci.
Donc la saison passée, tu avais fait les handicaps visuels, les handicaps auditifs.
Les maladies invalidantes, handicap cognitif.
Et là, tu vas nous parler du coup des handicaps psychiques et du handicap mental.
Et moteur.
Et moteur. Voilà, comme ça, on est bien clair sur la question. Eh bien, on va bientôt clore cette émission. Mais avant, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Non pas que les autres sujets ne nous intéressaient pas tous, mais...
Attention à ce que tu dis, hein.
Bizarrement.
Non, mais elle s'explique, elle a raison.
Moi, c'est un truc que j'ai pas compris.
Eh bien, nous allons parler d'argent. Oui, avec Patty, la littérature, l'argent et nous. Patty, qu'as-tu lu récemment que tu voudrais partager avec nous? Eh bien, c'est ce que tu vas nous faire découvrir maintenant.
Alors, bonjour chers auditeurs, chères auditrices et chers collègues de la radio. Nous allons parler du livre d'Émile Zola qui a pour thème l'argent, tout simplement. Et saviez-vous que cet auteur renommé a traité dans ses romans des sujets aussi actuels, aussi modernes, à tel point qu'ils nous occupent encore aujourd'hui ? On n'a pas d'écho, donc je continue. Dans son roman,
oui, oui, on l'écoute religieusement.
Nous sommes très attentifs et donc, attentives.
Dans son roman, et merci à vous, dans son roman, Émile Zola dépeint tout un pan de la société du 19e siècle à travers ce prisme. Nous en apprenons beaucoup sur l'époque, tout en constatant que le parallèle avec notre époque n'est pas si loin. Tout d'abord, l'histoire. L'argent est donc un roman d'Émile Zola, publié en 1891, et il fait partie de la série des Rougon-Macquart. C'est le 18e volume. Zola nous expose une description quasi picturale, tant elle est détaillée, presque écœurante, de la bourse, perçue par l'observateur qu'il était. Petit rappel sur ce qu'est la bourse. La bourse concerne le marché des actions. Une action est un titre de propriété. Détenir une action, c'est détenir une partie du capital d'une société. Le protagoniste principal du livre est Aristide Rougon, dit Saccard, un homme d'affaires ambitieux et sans scrupules, qui cherche à s'enrichir rapidement tout en spéculant sur la bourse. Cependant, le plan de Saccard ne se déroule pas comme prévu. Les spéculations de la bourse sont imprévisibles et les investisseurs perdent confiance, ce qui entraîne une chute de la valeur des actions. Saccard se retrouve bientôt endetté et doit trouver de nouvelles façons de maintenir son entreprise bancaire à flot. Zola dépeint de nombreux personnages. À travers leurs comportements, leurs propos et leurs actions, il explore les thèmes de la spéculation, de la corruption et de l'obsession de l'argent dans la société parisienne du 19e siècle. Ainsi, il brosse le portrait de cet homme, Saccard, davantage possédé par l'argent qu'il n'en possède lui-même. Sa carte est animée par une vision mégalomane, irréaliste. Il a convaincu des personnes ignorantes de se rallier à son projet. Il n'a pas respecté la loi et rêvait de détruire son rival, un autre banquier, plus raisonnable que lui, mais aimant tout autant l'argent. Heureusement, il décrit aussi quelques personnages qui ont un comportement sain vis-à-vis de l'argent. Caroline, une femme, tiens, solide, solide et lucide. Et un jeune couple, Marcel Maugendre et Paul Jordan, écrivain, poète, à l'amour réciproque, couple stable et loyal en dépit des difficultés. Ils subissent malgré tout l'influence de ceux qui possèdent un pouvoir psychologique ou financier plus grand que le leur, sans y succomber. Ceux qui perdent leur argent sont de différents milieux sociaux. Ce qui les relie, c'est leur crédulité, leur désir de faire fortune rapidement et donc leur confiance dans le merveilleux récit du banquier Saccard. Celui-ci ne reconnaît hélas ni ses erreurs ni ses fautes, qu'il rejette bien évidemment sur son concurrent, le puissant banquier Gundermann, avec des propos racistes contre les banquiers juifs. Après son échec, il est prompt à se lancer de nouveau ailleurs, dans un nouveau projet, tout aussi ambitieux, à l'étranger cette fois. Zola montre comment la spéculation et la corruption ont perverti la société et ont conduit à des scandales et à des ruines financières. Le roman se termine dans la ruine d'une multitude de petites gens, dans une avalanche de drames, dans les larmes et le sang. Subsiste cependant une note optimiste avec le personnage de Caroline qui s'abandonne à la vie qui continue, plus forte que tout. Zola n'exclut pas une fonction positive de l'argent, car s'il peut abaisser, l'argent peut aussi élever. Il mentionne aussi son rôle civilisateur, hygiène, santé, ouverture d'esprit, animation de la société, progrès, enrichissement de la collectivité. Zola a même écrit dans ses notes « L'argent est pour beaucoup la dignité de la vie ». Ici s'achève la première partie de cette chronique.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, écoute, on a hâte d'entendre la deuxième partie, toujours sur l'argent de Zola. Et voilà, la littérature, l'argent et nous. C'est toujours un sujet que tu arrives à rendre d'actualité, quelle que soit la... C'est un peu l'idée en même temps.
Moi, je parle pas beaucoup.
Eh bien, notre émission touche à sa fin pour de bon cette fois. On va terminer comme toujours en musique avec une chanson de Grégoire qui s'appelle « Vivre ». C'est un véritable hymne positif et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci à mes chroniqueuses, Patty, Fatih, Bertil, Marion et bien sûr à toi Martin, notre étoile filante. Merci à vous chères auditrices, chers auditeurs et je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine matinale
infernale.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abrutis de calme.
vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir.
Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.